Benoît Crémer, le 18 juin 2005, le CERN. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette petite séance d'information sur les activités politiques et scientifiques du CERN. Tout d'abord, je commence par vous présenter mes excuses, étant donné que je me présente devant vous sans cravate. Et il y a trois raisons à cela. La première, c'est qu'il fait chaud, comme vous l'avez constaté. La deuxième, c'est que, suivant des habitudes qui nous viennent d'outre-Atlantique, le week-end, même quand on travaille, on a tendance à ne pas porter de cravate. Et la troisième raison, c'est que je vais vous parler d'une organisation dans laquelle la plupart des gens qui y travaillent ne portent pratiquement jamais de cravate. Et c'est là la toute première spécificité, celle qui saute aux yeux en quelque sorte lorsque l'on va se rendre sur place, c'est que lorsque l'on arrive sur place au CERN, on voit des gens en chemise à carreaux, en short et en survêtement, ce qui s'explique parce que c'est une organisation extrêmement technique où les gens travaillent également manuellement, évidemment, beaucoup intellectuellement, mais aussi beaucoup manuellement, et dans des conditions que je décrirai plus loin, qui expliquent donc un certain laisser-aller dans la mise. Mais le CERN n'a pas que cette spécificité-là, et je vais donc m'employer à vous expliquer ce qui fait que c'est une organisation un petit peu hors du commun. J'ai choisi cette organisation aussi parce que elle était hors du commun et parce qu'elle était à Genève et peut-être un peu moins connue que toutes les autres grandes organisations de la famille des Nations Unies que vous connaissez bien et qui ont un rôle plutôt politique. Non, le CERN, c'est une organisation technique. Évidemment, elle repose sur une base politique, c'est-à-dire que c'est une organisation intergouvernementale. Ce sont donc les gouvernements des États membres et partis à la Convention qui sont représentés dans les instances dirigeantes et qui décident des programmes d'activité et du financement de ces programmes. Les membres de cette organisation sont ce sont des gouvernements européens. Européens au sens large, il y a 20 États membres. Et une deuxième, en quelque sorte, spécificité du CERN que l'on peut découvrir aussitôt, c'est que, d'abord, il y a un petit problème sur la désignation. CERN, c'est l'abréviation de Centre européen de recherche nucléaire. Mais le nom officiel de l'organisation, c'est Laboratoire de recherche nucléaire. On se demande pourquoi on n'a pas appelé ça le LERN, peu importe. En réalité, il y a une troisième désignation qui est Organisation européenne de recherche nucléaire. Et les choses sont encore compliquées lorsqu'on sait que beaucoup d'États qui ne sont pas du tout européens participe très étroitement aux activités du CERN. L'Inde, la Chine, les Émirats arabes unis, la Russie, les États-Unis sont tous des pays dont la contribution technique, financière, politique au CERN est tellement importante que l'on n'imaginerait pas que le CERN puisse exister sans eux. Donc la désignation européenne dans le titre de l'organisation est déjà un peu de nature à induire en erreur. En tout cas, sur le plan formel, pour ce qui est des décisions politiques, ce sont uniquement les États européens qui ont droit de vote dans les instances dirigeantes. Le CERN est donc une organisation particulière à cause de ce côté européen qui ne l'est pas tout à fait, mais elle a un autre caractère très inhabituel, c'est qu'elle possède deux États de siège, deux États hôtes, la Suisse et la France. Cela ne s'explique pas par une raison politique, par une volonté de distribuer des pouvoirs entre plusieurs États, mais simplement par une raison totalement technique, qui est que les grandes installations techniques dont je reparlerai plus loin, qui composent le CERN, sont tellement vastes qu'elles sont obligées de s'étendre sur un périmètre qui couvre les deux États en question. Et si vous êtes déjà allé sur place, vous savez que c'est du côté de Mérin, et c'est une installation qui traverse la frontière, qui est souterraine, et donc on ne la voit pas, on ne se rend pas compte de cette binationalité, mais qui en tout cas couvre les deux États, ce qui explique qu'il y a deux États hôtes pour le CERN. Alors, le CERN, je le disais, s'occupe de recherche nucléaire. Là encore, la désignation est peut-être de nature à induire en erreur, parce qu'il ne s'agit pas de recherche nucléaire au sens usuel du terme, c'est-à-dire construction de centrales nucléaires, production d'énergie, etc. Il s'agit plutôt de recherche fondamentale sur les particules qui constituent la matière. Et pour cela, le CERN a trois grands types d'activités. Tout d'abord, le CERN s'occupe d'accélérateurs. Les accélérateurs, ce sont des immenses machines, justement des anneaux circulaires souterrains qui sont construits en dessous de la Terre dans les cavités prévues à cet effet, qui sont assortis d'aimants qui permettent de diriger des faisceaux de particules et de les envoyer à des endroits bien précis. Vous imaginez là qu'il s'agit là d'une activité technique au plus haut degré qui fait appel au génie civil, à la construction souterraine, mais aussi à l'assemblage de pièces qui viennent du monde entier et dont la fabrication est de la plus haute technicité. Une fois que ces particules sont accélérées, d'où le nom d'accélérateur, elles circulent dans ces anneaux gigantesques souterrains et finissent par être projetées contre des cibles. Il se produit alors une explosion. La particule elle-même, dont je vous fais grâce du nom, ou des noms différents, explose en quelque sorte et se subdivise en d'autres phénomènes qui sont parfois des particules, des ondes ou toutes sortes d'autres choses très bizarres que les scientifiques sont très désireux d'étudier. Pour cela, il faut un autre type d'installation qui est évidemment le deuxième grand axe de travail du CERN, qui sont les détecteurs. Ce sont des machines tout aussi complexes et extrêmement sophistiquées qui sont construites pour essayer de repérer, en quelque sorte de photographier, ce qui se passe au point de collision au moment où les particules projetées heurtent leur cible. Alors, il faut bien se représenter une chose. D'une part, les particules sont minuscules, ce sont des particules subatomiques, des particules elles-mêmes constitutives d'un atome. Et d'autre part, il ne s'agit pas d'en envoyer une contre une cible. Vous avez des chocs de particules qui représentent 800 millions de particules par seconde. Donc vous imaginez déjà intellectuellement et dans l'imagination, la complexité est colossale. Les détecteurs sont donc là pour, en quelque sorte, comme à l'arrivée d'une course de chevaux, départager qui arrive à quel moment, qui fait quoi et qui se transforme en quoi quand il y a ce choc, cette collision. Mais tout ceci ne suffirait pas, parce qu'il ne suffit pas d'accélérer les atomes ou les particules, de provoquer ces collisions et d'observer les collisions. Encore faut-il expliquer, analyser les résultats. Et à cet effet, le CERN a mis en place ce qu'il a appelé la grille, the grid en anglais. La grille, c'est un réseau d'ordinateurs qui s'étend sur le monde entier et qui a précisément pour vocation d'interpréter, d'analyser les résultats de toutes ces collisions. Parce que quand vous avez 800 millions de particules qui entrent en collision par seconde, aucun être humain n'est à même de repérer ce qui se passe exactement. Aucun ordinateur n'est à même de le faire. Aucun ordinateur super géant ne pourrait le faire. Il n'y a qu'une mise en réseau d'un nombre immense d'ordinateurs super géants qui a une petite chance de décrypter les résultats et de savoir exactement ce qui se passe. Et j'en viens maintenant à une des vocations, une des raisons d'être du CERN, qui est évidemment de faire de la recherche physique fondamentale, c'est-à-dire de déterminer comment les choses se passent lorsque l'on provoque ces collisions pour essayer de savoir quelles sont les particules ou les forces qui existent en dessous du niveau de l'atome. Mais bien entendu, les gouvernements ne seraient jamais disposés à financer des installations de cette envergure et des recherches de cette complexité s'il n'y avait pas des retombées concrètes pour l'être humain dans sa vie de tous les jours. Et justement, une des retombées concrètes que l'on peut citer, qui est à l'heure actuelle une des plus flagrantes, c'est l'existence de ce réseau d'ordinateurs qui n'aurait jamais vu le jour sans le projet que le CERN a lancé, le projet de recherche. Ce réseau d'ordinateurs va évidemment être mise à profit pour beaucoup d'autres types de recherches, étant donné que c'est la première fois que l'on met en contact un aussi grand nombre d'ordinateurs puissants dans le monde. Ceux-ci sont absolument nécessaires pour analyser les résultats des expériences du CERN, mais une fois que le réseau aura été constitué, il sera utilisé pour beaucoup d'autres choses différentes, et probablement que la puissance de calcul et de travail de ces ordinateurs sera telle qu'elle nous permettra de faire un grand bond en avant dans l'utilisation de ces réseaux d'ordinateurs pour toutes sortes d'autres domaines. D'ailleurs, ça semble être là aussi une des spécificités du CERN. Le fait que l'on entreprend une recherche dans un domaine extrêmement pointu tel que la physique des particules et que l'on aboutit à des résultats qui sont d'un tout autre ordre, à des retombées concrètes et à des avantages pour l'humanité qui n'ont en réalité pas grand-chose à voir avec la physique des particules. Le meilleur exemple, c'est le célèbre World Wide Web qui a été inventé au CERN pour répondre aux besoins particuliers des scientifiques du CERN qui devaient échanger des résultats dans le monde entier et qui, comme vous le savez parfaitement, est utilisé aujourd'hui pour toute autre chose et a en réalité complètement transformé notre vie. Parmi les autres domaines qui ont abouti à des résultats concrets pour nous et qui viennent directement du CERN, on peut citer aussi quelques types de recherches, d'appareils d'analyse médicaux qui sont le fruit indirect de recherches réalisées au CERN. Évidemment, il faut se représenter l'envergure de tous ces travaux. La cavité dont j'ai parlé, la cavité souterraine qui héberge ces accélérateurs, a 27 km de diamètre. Donc nous parlons là de construction d'une ampleur inimaginable. Et la quantité de câblage, d'aimants, d'installations techniques, d'ordinateurs qui sont nécessaires pour exploiter cette installation est absolument faramineuse. Et tout ceci coûte des sommes qui se chiffrent par milliards de francs suisses. Donc les gouvernements sont parfois un peu réticents à investir autant d'argent pour des résultats dont il est parfois, en tout cas pour le profane, difficile de cerner l'utilité immédiate. C'est ainsi que un des buts à terme, un des buts avoués de cette recherche fondamentale est en réalité de déterminer ce qui s'est passé à la naissance de l'univers, au moment de ce fameux Big Bang, quelle était la composition de l'univers, quelle était la température initiale à ce moment-là, de quelle manière les particules ont interagi les unes avec les autres pour aboutir à la matière et la création de l'univers tel que nous le connaissons. Tout ceci peut sembler extrêmement théorique et ne pas avoir de grande incidence sur notre vie pratique de tous les jours. Les scientifiques sont évidemment d'un avis contraire et estiment que cette recherche qui est fondamentale, c'est-à-dire qui est de nature théorique, va avoir des conséquences majeures sur notre compréhension de l'univers. Et c'est d'ailleurs un des buts exprimés dans les lignes directrices et dans les programmes fondamentaux du CERN, qui est de découvrir les règles qui régissent l'univers. Rien que cela. C'est donc un programme d'une ambition énorme. Alors, parmi les résultats immédiats que les scientifiques escomptent des programmes qui vont être réalisés dans les années à venir au CERN, figure la découverte de nouvelles particules qui pourraient expliquer certaines relations ou certains phénomènes de l'univers, la confirmation de l'existence d'une grande théorie, c'est-à-dire un grand ensemble de lois qui s'appliquerait à tout l'univers, dans toutes les circonstances, de la plus petite à la plus grande échelle, et qui expliquerait, un peu comme le fait la gravité pour le fonctionnement des planètes, qui expliquerait comment l'univers fonctionne au niveau de la matière. Et les scientifiques estiment que la construction des installations techniques du CERN correspond en quelque sorte à une cathédrale des temps modernes, c'est-à-dire c'est l'équivalent de ces entreprises pratiquement démesurées que l'être humain engage de temps à autre pour se dépasser et aboutir à des résultats qui sont en réalité assez éloignée du but premier, mais qui ouvre notre esprit sur quelque chose de tout à fait différent. Et espérons qu'un jour, le CERN découvrira effectivement les lois qui régissent l'univers. Je vous remercie de votre attention.